t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Hello les amoureux de Radio Judaïka, vous avez bien raison de dorloter les ondes de cette radio toujours aussi flamboyante qui illumine vos journées et sublime votre poste radio. Sans aucune publicité, il faut le souligner, c'est rare, mais tellement bon. Une radio libre, chaleureuse, curieuse, audacieuse et lumineuse, proche de ses auditeurs, mais moi je préfère dire proche de ses grandes oreilles, c'est beaucoup plus joli et plus poétique. Et un grand merci pour votre fidélité et votre écoute. Nous passons des moments magiques, parler de tout, même dans le désordre, surprendre mon invité, s'intéresser à elle et à lui, et finalement, on en ressort plus heureux, plus riche et même un peu plus intelligent. Fais-moi une place, c'est maintenant ma 158e émission en 4 ans et j'ai invité pour la 158e un éminent chef de chœur, un chef d'orchestre, un passeur d'émotions de l'Opéra du Rhin, monsieur le Kapellmeister Luciano Biblioni. Soyez le bienvenu Luciano, comment vous allez ?
Merci beaucoup, je vais très bien, content d'être ici.
Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom de famille ? C'est Biblioni, hein, c'est ça ?
Je me sens concerné à chaque fois, ne vous inquiétez pas.
Mais les gens vous appellent Bibi peut-être dans le, dans...
Non,
pas vraiment. Non. Alors, le 14 juin, à 18h au Zénith de Strasbourg, vous dirigez 1000 choristes réunis pour un moment musical exceptionnel.
Ça va être le cas, en effet. Il y a l'Orchestre du Rhin, 45 instrumentistes du plus haut niveau professionnel ici de la région, et 1000 chanteurs, mais il y aura aussi presque une centaine de danseurs et il y aura des milliers d'âmes dans le Zénith de Strasbourg.
C'est une prouesse artistique grandiose, énorme, phénoménale.
Bah, ne serait-ce que le fait d'avoir cette énergie acoustique, 1000 personnes qui chantent d'un même cœur, dans tous les sens du terme, ça prend aux tripes.
Et ça donne des frissons aussi.
Des frissons, ça fait réfléchir aussi, parce que la thématique, ce sera les environnements. Ce ne sera pas regarder un film, même s'il y aura de la vidéo, même s'il y aura de la scénographie, il y aura des cerfs-volants sans vent, il y aura une grosse baleine qui va parcourir la scène. Bah, chacun va faire son film à partir de ses musiques et à partir de ses images.
C'est extraordinaire, c'est du Spielberg. C'est extraordinaire.
C'est même mieux, je dirais, parce que c'est le film que chacun veut se faire avec tout ce qu'on leur propose.
C'est des rêves avec du son.
Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand on va à un concert de musique, on peut parfois fermer les yeux, rêvasser un peu, et c'est le meilleur des films qu'on peut imaginer.
Ouais, c'est beau l'imaginaire. C'est comme ici à la radio. On imagine,
exactement.
On n'a pas d'image, mais oui. le son traverse partout. Alors, 1000 personnes, ce sont des hommes, des femmes, des enfants, que des amateurs ?
Il y a la maîtrise de l'Opéra National du Rhin au centre du dispositif. Ce sont des chanteurs qui répètent 6-7 heures par semaine. Il y a le chœur de l'Orchestre du Rhin. Ce sont des jeunes qui ont parfois 20 ans d'expérience et seulement 30 ans. Donc ça veut dire que 2/3 de leur vie ont chanté à l'opéra et avec plein d'orchestres. Donc grâce à eux, disons que la texture vocale, elle est bien soutenue, mais les 1000 chanteurs, c'est aussi des gens qui ont chanté parfois 50, 60 ans, des enfants débutants, mais qui ont une énergie incroyable et l'oreille de l'enfant est tellement parfaite qu'ils arrivent à aider et à contribuer. Chacun avec sa particularité, avec une énergie incroyable pour que la qualité musicale soit au rendez-vous et que la poésie ait lieu.
Vous parlez d'oreilles. Vos oreilles sont exceptionnelles, Luciano ?
Des oreilles normales.
Non, pas vraiment, parce que vous entendez tout. Vous connaissez tous les sons, vous entendez l'orchestre, les musiciens, vous connaissez tous ces instruments, du violon, au piano, vous connaissez tous les sons.
On s'entraîne, c'est vraiment un travail depuis qu'on commence à faire la musique, à mieux écouter, à bien diriger son attention. Et avec tous ces chanteurs, on travaille pour mieux s'écouter. Et la métaphore aussi civique de ce que ça veut dire, mieux s'écouter, se taire, écouter l'autre, parler quand c'est le moment, avoir une voix, c'est l'entraînement qu'on fait dans ce spectacle et qu'on fait le long d'une saison.
Mais Luciano, tout le monde sait chanter. Tous ces 1000 choristes savent chanter. Bon, il y a des professionnels, mais il y a aussi des amateurs. Moi, je sais qu'ici à la radio, on parle, on pose la voix. Mais chanter, c'est quand même totalement différent. Je ne sais pas chanter.
Je ne sais pas chanter. Je ne sais pas chanter. C'est déjà chanté, non?
Je ne sais pas.
Quand on parle, on chante. On peut parfaitement transcrire sur une partition de musique quand on parle les hauteurs qu'on chante, les notes qu'on chante, quand on parle. C'est-à-dire que si on parle, on chante.
Ah oui. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière. Vous pensez, Luciano, nos ancêtres, nos aïeux, il y a 40 000 ans, par exemple, savaient chanter avant de parler?
Puisque c'est très lié à la voix au chant, le chant à la voix, on ne sait pas ce qu'on a fait d'abord, est-ce qu'on a parlé, est-ce qu'on a chanté d'abord, c'est difficile à dire, mais j'ai l'impression que c'est imbriqué. Ça va être un peu la thématique du projet de l'année prochaine, mais nos aïeux, ils étaient des artistes. Cette année, on a trouvé des peintures rupestres de plus de 67 000 ans en Indonésie.
Ah ouais.
Il faut imaginer ce que c'était, où... à l'époque des chasseurs-cueilleurs, on était tous des artistes. On chantait tous, on peignait tous. C'était des récits. On était des poètes, on était passeurs de mythes, d'histoires. Et donc, petit à petit, on a perdu cette capacité, mais elle est toujours là. Ça fait partie de nous.
Parce que cette vie qu'ils avaient avant, c'était une vie beaucoup plus cool, sans doute. Pas de stress, pas de travail.
C'est ce qu'on commence à apprécier maintenant. Il y a des études de plus en plus poussées. On se rend compte qu'à l'époque des chasseurs-cueilleurs, ça prenait 1 heure, 2 heures de trouver sa nourriture. Le reste du temps, c'était de l'art.
Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on va avec les caddies, on va remplir le caddie. C'est plus du tout la même chose.
Il faut travailler pour remplir la caddie.
Exactement.
Et ça prend du temps.
Oui, c'est vrai que ça prend du temps. Alors, chanter, c'est déjà partager des émotions, Luciano. C'est partager des sourires, des joies.
Il y a évidemment tout ça. Quand on chante, on est en train de communiquer, mais d'une façon un peu particulière. On est le temps d'une répétition, le temps d'un concert, mais aussi le temps d'une saison, une société différente, puisqu'on s'écoute, on chante, on fait avec, on s'alterne, on est solidaire, on a des points forts, des points faibles, et il y a quelqu'un d'autre qui a les points forts et faibles un peu à l'inverse de nous, et ça nous aide, et on aide. Et donc, la voix humaine est idéale pour l'oreille humaine. C'est-à-dire que l'oreille humaine est très sensible à la voix humaine, beaucoup mieux que certains instruments, beaucoup mieux que le son des animaux. Et donc, les émotions qu'on peut avoir quand on entend la voix humaine, elle est unique.
Vous parlez d'instruments à l'instant, j'ai aussi lu et entendu que les Homo sapiens, par exemple, soufflaient déjà dans des flûtes taillées dans des os, dans les os d'oiseaux.
Tout à fait.
Et les instruments ont démarré à ce moment-là.
Évidemment, déjà, avec le corps, on peut faire la percussion corporelle. Avec tout ce qui tourne, on essaye de faire du bruit, on essaye de faire du son et le rendre beau. Donc, on peut imaginer que ça fait partie de l'histoire humaine, mais de l'histoire de la vie, tout simplement sur Terre. On entend les oiseaux chanter, mais on sait que les baleines chantent, qu'elles parlent, qu'elles communiquent. Et tous les animaux communiquent de différentes façons, y compris acoustiquement.
Et vous les comprenez, ces animaux, les baleines par exemple? Comment vous faites? Qu'est-ce qu'ils racontent les baleines? Qu'est-ce qu'elles se racontent?
C'est passionnant. C'est des mammifères qui sont, d'un point de vue, plus évolués que nous. Il ne faut pas l'oublier.
Parce qu'ils sont plus grands que nous aussi. Ils sont énormes.
Ils ne pourraient vivre que dans l'eau. C'est pour ça qu'ils sont là. Mais les baleines, par exemple, toutes les baleines ont un prénom et un nom. Ils appartiennent à un groupe. Comme nous.
Attendez, vous devez dire les baleines dans l'eau s'interpellent. Salut Charles,
Exactement. Comment
vas-tu?
Exactement.
Qu'as-tu fait de ta journée?
Peut-être pas avec ces détails-là, mais ils ont quand même 2000 mots de vocabulaire.
Et comment vous le savez, ça?
Il y a des études pour ça, et on les a enregistrées. Dans les années 70, on a enregistré pour la première fois les baleines, et ça a été un best-seller,
un disque qui
a vendu vraiment des millions. Et ça a sensibilisé les gens au fait que les baleines, ce n'est pas juste des animaux, c'est des êtres vivants comme nous, avec la même dignité.
Et en parlant d'oiseaux, vous pensez que les oiseaux communiquent aussi avec le sifflement? Ils s'interpellent?
Alors, il y a un grand compositeur français, Olivier Messiaen, un grand, grand compositeur du Conservatoire de Paris, avec une histoire incroyable. Et il était aussi ornithologue. Et il a écrit 4 volumes avec toutes les mélodies des oiseaux qu'il a pu entendre, et il avait une oreille incroyable, donc il a écrit à la précision les oiseaux qu'il a entendus, un peu comme je disais tout à l'heure, quand nous parlons, on aurait pu écrire le texte dit, ou les paroles dites, bah lui il faisait ça avec les oiseaux, et c'est un modèle d'étude du chant d'oiseaux.
Alors, Luciano, comment la musique vous a-t-elle attrapé? Comment elle vous a attrapé, la musique? Comment c'est venu chez vous?
Bah, du moment où on est dans le ventre maternel, déjà on peut entendre. Mais assez tôt, finalement. Hein. Ce n'est pas seulement à la naissance.
Votre maman chantait tout le temps, vous voulez dire?
Bah, je ne pourrais pas le dire, mais j'imagine que oui. Et le signe qu'on entend, c'est que le premier cri des nouveau-nés en France...
Quand ils naissent,
mais en Argentine où je suis né, n'est pas le même partout au monde. Pourtant, il y a des points communs. Vous allez rigoler, mais à l'antenne, si vous entendez des cris de bébé tout à coup, ça sera surprenant. Mais en France, le premier cri d'un bébé, c'est ou quelque chose comme ça, alors qu'en Argentine, c'est Tout semble des cris de bébé.
Un cri de détresse, plutôt, ce que vous faites en Argentine.
Bah, quand on arrive sur cette planète, c'est quand même une expérience très forte. Mais en France,
c'est inquiétant, vous voulez dire.
En France, ça se rapproche du rythme de la voix parlée France.
Ah, ouais.
Et en Argentine, du rythme de la voix parlée en Argentine. C'est-à-dire qu'on entend déjà les rythmes, on entend déjà la musique, même avant d'être né.
C'est vrai que chez vous en Argentine, vous en parlez à l'instant, la musique elle est partout dans la rue, tout respire le rythme, le foot, tout ça c'est de la musique.
Il y a beaucoup de rythme en Argentine, l'Argentine est un grand pays, hein, c'est 4-5 fois la France, il faut imaginer en termes de territoire, et donc il y a beaucoup de genres et de styles musicaux différents, il y a la musique de la ville, surtout Buenos Aires et les tangos, mais aussi...
Mais on peut juste écouter un petit extrait de tango si vous voulez, pour vous faire plaisir. C'est un tout petit extrait pour mettre dans le bain. Vous dansez le tango
J'ai eu dansé, oui.
C'est une belle danse
C'est très intéressant. Je l'ai appris sur le tard. J'étais déjà en France quand je l'ai appris. Et c'est passionnant, c'est engageant comme quand on improvise en faisant la musique.
C'est une musique une danse un peu sensuelle.
Bah, ça dépend avec qui on danse.
Ah, c'est vous d'accord, oui, je comprends. Alors, Luciano, on va revenir un petit peu, on va rembobiner un tout petit peu votre vie. On va juste, regardez, j'ai un petit truc comme ça, c'est mon jingle. Ça vous inspire quoi?
Oui, bah,
votre enfance.
Mes parents avaient de ces boîtes à musique.
D'accord. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, comment était votre enfance, Luciano? Vous étiez un enfant sage, turbulent?
J'étais turbulent jusqu'à mes 4-5 ans, je pense. Et après, je me suis un peu calmé. Y a un chien qui m'a mordu et ça m'a anesthésié pendant un certain temps. Donc, j'ai eu une vie intérieure beaucoup plus active à ce moment-là. Mais j'ai eu une enfance heureuse.
Vous avez peur des chiens aujourd'hui?
Pas du tout.
Plus du tout.
J'adore les chiens.
Alors vous avez baigné dans la musique, hein, j'imagine, tout petit, dans votre famille?
Pas forcément, je suis le seul musicien dont j'ai connaissance.
Ah oui, d'accord.
Même si ma sœur a fait un peu, et mon frère aussi, ça n'a pas duré longtemps.
Et alors, vous étiez un élève brillant? C'était quoi vos rêves d'enfant? C'était quoi? Vous aviez envie de devenir... vous avez imaginé d'être policeman, pompier un jour, ou chirurgien, ou musicien, je ne sais pas.
Je voulais avoir quatre professions.
Ouais.
L'une, c'était ingénieur électromécanique.
Waouh.
Je voulais construire des machines. Je voulais être chanteur, musicien. Je voulais être maître glacier.
Vendre des glaces?
Bah oui.
Oh, c'est noble.
Bah, j'adorerais. Hein.
Vous aimez les glaces, oui. C'est quoi votre parfum préféré?
Un kilo par jour. C'est les fraises et surtout confiture de lait, comme tout bon Argentin.
C'est une spécialité en Argentine. Je ne connais point ça.
Dulce de leche.
Ah ouais, d'accord. Alors, j'imagine, après vous avez fait de la musique, vous avez fait les écoles de musique, tout ça. Et vous jouez quasiment de tous les instruments. Quand on est chef d'orchestre, on sait utiliser un violon autant qu'une trompette, autant qu'un saxo ou...
Alors, c'est au choix des étudiants. Pour ma part, j'ai vraiment pris à cœur, le conseil de mes professeurs d'apprendre un instrument de chaque famille d'instruments. Donc, pour les cordes, appris le violon. Pour les bois, j'ai appris la clarinette. Pour le cuivre, j'ai appris le tuba. Mais le piano et l'orchestre. Donc, j'ai appris tous ces instruments.
Ouais, c'est un énorme. Mais comment vous pouvez mémoriser tous ces sons, comment vous faites avec les différents instruments?
C'est comme faire différents sports ou parler différentes langues. Ça prend petit à petit.
D'accord, tout petit, vous avez appris ça, quoi.
Petit à petit, même plus grand.
D'accord. Alors, on en a parlé tout à l'heure, vous avez vraiment de bonnes oreilles, j'imagine, meilleures que les miennes. Les miennes commencent à être un peu fatiguées, mais...
Non. Je pense, par exemple, je n'ai pas une aussi bonne oreille que les gens qui sont nés en France et ont entendu le français tout le temps.
Ah bon ?
Parfois, avec mon oreille d'argentin, y a quelques mots qui passent à la trappe.
Que vous ne comprenez pas, que vous n'avez pas entendu ?
Que j'entends pas bien les « et », les « et », les « e », le « en ». C'est un peu difficile pour moi.
Ah oui, c'est difficile. Ouais, mais vous parlez parfaitement le français. En plus, vous avez un bel accent.
Je m'en sors, mais je ferai des progrès.
On va écouter un petit extrait de ce que vous allez jouer au Zénith dans quelques jours, le 14. C'est Souffle d'air, je crois que ça s'appelle. On va l'écouter. Hein ? C'est beau, dites-moi, c'est magnifique, les chants, les personnes chantent vraiment bien.
C'est unique. Moi, en écoutant ça, je me dis ça va être génial.
Ah ouais, mais ça l'est, ça donne des frissons, c'est vrai. Alors, vous avez, dimanche dernier, vous étiez tous à l'opéra, vous avez révisé, vous étiez nombreux et nombreuses.
On était plus de 800.
Oui, c'est ça.
On était presque au complet, on ne peut pas être au complet parce qu'il y aura des chœurs qui viennent de Finlande, de Grèce, d'Espagne, bref.
Et justement, j'ai rencontré une petite dame là, qui est une passionnée, qui aime tout ce que vous faites. On va écouter un bout de son.
Alors dites-moi, vous êtes une des 1000 choristes qui vous allez bientôt chanter au Zénith le 14 juin. C'est quoi que vous chantez ?
Alors j'ai beaucoup de chance d'être choriste dans ce chœur participatif. Et nous chantons des chants qui concernent l'environnement, l'air, l'eau, etc., etc.
C'est de l'écologie ?
Un peu.
Et alors vous êtes pas que des Alsaciens, il y a des Grecs, qu'est-ce qu'il y a comme chanteurs et chanteuses ?
Alors, cette année, il y a des choristes grecs, espagnols et finlandais qui nous accompagnent. Il y a également des enfants des écoles. Et bien sûr, il y a la maîtrise et le chœur de l'opéra.
Et donnez-moi une petite info, il est comment Luciano Biblioni ? Exigeant ?
Exigeant, mais très et bienveillant. Bienveillant.
Et tout le monde vient en répétition ?
Oui, la plupart du temps, tout le monde vient à l'atelier. C'est très important, l'atelier, ça nous permet de travailler à la maison.
Vous prenez du plaisir à chanter ?
Beaucoup, ça apporte beaucoup de joie et ce partage que nous avons énormément.
Et Biblioni, c'est quelqu'un d'exceptionnel ?
Je crois, oui, il a des projets toujours un petit peu exceptionnels.
Des projets un peu fous ?
Non, pas fous pour moi, mais il a l'air d'être passionné de musique.
C'est bien, c'est bien.
Mais ça, tu mets pas, il a l'air. Alors, c'est des beaux compliments hein, de cette dame.
Bah, merci beaucoup.
Hein, vraiment, merci ouais, oui, c'est vrai. Ils sont, je pense qu'ils sont tous comme ça, non ? Tous ces 1000 choristes, ils viennent avec plaisir chanter. C'est joyeux, ça fait du bien à l'intérieur de soi.
Bah, l'idée, c'est que ces répétitions nourrissent un peu les jours qui continuent. Et donc, la musique, finalement, nous apporte de la lumière tout le long de la saison. Et même pour les spectateurs qui viendront le 14 juin, l'idée, c'est qu'on garde cette énergie que nous allons partager ensemble, que ça nous donne des idées pour faire d'autres choses de cette façon, même en dehors de la musique.
Alors, c'est un pari fou quand même de faire chanter autant de gens au Zénith. Vous attendez beaucoup, beaucoup de monde ?
Bah, c'est fou d'un point de vue, mais c'est tout à fait raisonnable. On oublie à quel point on peut faire des choses incroyables si on s'y met tous. Et donc l'idée, c'est de faire cette expérience, que ce soit sur la musique, mais aussi sur le dialogue avec les disciplines, aussi sur le fait que c'est un projet écologique, non seulement parce que la thématique l'est, mais on invite les gens à venir en transport en commun, ou à vélo, ou même à pied. On va trier sur place. Bref, on a été labellisé éco-manifestation, et on s'efforce de joindre l'acte à la parole, et inversement. Et donc, on apprend en faisant non seulement la musique, mais au-delà, comment être mieux ensemble.
Mais tous les gens savent chanter en grec, hein, parce que vous chantez dans plusieurs langues, non ?
Alors, cette année, on chante en français surtout, en anglais et en espagnol. Donc, les Grecs, on a pris dans toutes ces langues-là.
Waouh, c'est vrai que le Zénith, c'est un endroit incroyable, c'est grandiose, c'est beau au niveau du son, tout ça. Alors, il y a quand même une location, ça coûte cher de louer le Zénith.
Tout à fait, je ne le peux pas dire.
Alors, vous avez des mécènes, des gens qui vous aident ?
Nous cherchons toujours des mécènes. Le projet, il est toujours un petit peu déficitaire. Cette année, il l'est beaucoup parce qu'on a... on a décidé de ne jamais baisser l'ambition artistique et l'ambition humaine. Et donc, nous espérons qu'avec une bonne billetterie, on va arriver à équilibrer ce déficit. Mais c'est un projet qui vaut tellement la peine d'être fait que même les déficits, on s'en fiche finalement. On
oui,
va y arriver.
Bien sûr. Et un billet, c'est cher pour aller assister
pas
à ça ?
Pas du tout. Ça coûte, je pense que c'est parmi les spectacles les moins chers au Zénith. Ça coûte moins de 30 euros. Je pense que c'est même 27 euros.
Oui, oui.
Et en plus, il y a des réductions pour les moins de 18 ans. Il y a le pass culture.
Oui.
Donc ils peuvent venir entre guillemets gratuitement grâce à ce pass pour ceux qui ont du crédit. Donc vraiment c'est très large la capacité d'accueil.
Vous avez parlé un petit peu à la région, à la ville de Strasbourg, pour des gens qui puissent vous aider, vous
Tout
donner quelques moyens.
Donc la ville de Strasbourg nous aide, même si l'aide a baissé de 30% une année,
wow.
D'autres 30% une autre année. Donc quand on rajoute 30 plus 30, bah, ouais,
ça fait
beaucoup.
Ça fait zéro. Mais alors il faut frapper aux bonnes portes, il faut aller voir Madame Trottmann avec son nouvel adjoint, là, comment il s'appelle de la culture, Pierre Jakubowicz, je crois.
C'est ça.
Il faut aller le voir, parce qu'il est très dans la culture, lui.
On est en discussion avec lui, on pense qu'on peut faire de belles choses, on peut récupérer le terrain perdu pour la culture, et donc on verra ce que chacun peut faire à sa place.
Oui, c'est bien. Alors, on parlait à l'instant des hommes politiques, et je sais que vous m'aviez donné une information l'autre jour. Vous me disiez que vous avez même fait chanter notre résident de la République, Emmanuel Macron.
Oui, bah il était...
Et comment vous avez fait ?
Il était à Strasbourg, il était chez le préfet. En 2018, nous étions en train de répéter ce jour-là à l'opéra, comme on le fait pratiquement chaque mois. Et bah, il est venu nous saluer, il est venu chanter avec nous. Et c'était à l'époque où on faisait Carmen. Donc il a chanté Carmen avec nous. Il était plutôt sympathique à ce moment-là. Plusieurs années sont passées, hein, ça fait 8 ans déjà. Et... Donc la perception a un peu changé. Mais je retiens qu'il avait pris la partition, il savait lire une partition. Apparemment,
il sait lire la musique.
Apparemment, il sait faire du piano.
Wow.
Et il nous a félicités et il a dit « Je voudrais faire comme lui, je voudrais dire quand les gens peuvent utiliser leur voix et quand ils doivent arrêter de parler. »
Ah, c'est pas mal comme truc, mais ça, je sais pas si il arrive à le faire.
Je sais pas.
Mais bon, bah, c'est bien quand même, vous avez fait chanter le président dans la République, c'est ça. Et alors, il vous a pas aidé un peu ? Vous êtes pas allé le voir à l'Élysée pour lui dire « on a besoin d'un peu de pépette là pour continuer ?»
Non, c'est... On n'a pas vraiment de contact avec lui, autre que c'est 2 ou 3 mètres de distance jour.
Et pourtant, c'est déjà...
On aimerait bien, mais c'est... bon.
Ouais, vous, ouais.
C'est cercle, ça fonctionne par cercle concentrique, et même si on a été pas loin à ce moment-là, on n'a pas beaucoup de lien, mais si les auditeurs en ont, on peut le rétablir.
Oui, c'est bien. Alors, vous m'aviez dit tout à l'heure, bien sûr, qu'il y a de la vidéo derrière, des danseurs. Qui sont ces danseurs ? C'est des gens du ballet ?
Tout à fait. Et il y a 3 groupes chorégraphiques. Donc il y a l'ensemble chorégraphique de Strasbourg, il y a de la danse indienne, il y a la compagnie Dunia, de la danse africaine. Donc c'est Raji Parizeau qui prépare la chorégraphie pour la danse indienne. Et donc tout ça, ça raconte une histoire, puisqu'on parle des environnements, du sol, de l'eau, de l'air, et aussi des migrations, puisque nous, êtres humains, nous sommes des migrants. Apparemment, l'Homo sapiens a démarré, a surgi en Afrique, et depuis, on n'a pas arrêté de bouger, et on continue à bouger, qu'on prenne le bus, le vélo, c'est dans notre génétique de bouger, on est des migrants.
Bouger, c'est apprendre, vous voulez dire ?
Bouger, ça fait partie, c'est en bougeant qu'on apprend, certes, on va rencontrer les autres, et donc dans l'histoire qu'on raconte, on raconte aussi que il fait chaud quelque part aux planètes. Est-ce que vous saviez que en Inde, il y a plusieurs villes qui sont à plus de 50 degrés,
wow,
plusieurs jours de l'année. Au Brésil, c'est un peu la même chose. Donc, avoir de la danse indienne à ce moment-là pour raconter le mouvement des migrants et aussi de la migration aquatique. Il y aura de la musique d'Enya. Et donc, le peuple irlandais, il connaît bien le voyage en bateau. Et donc, on va parler de ces mouvements-là et aussi des êtres vivants dans toute la planète, que ce soit sous l'eau, dans l'air ou nous, sur Terre.
Ah, c'est beau. C'est magnifique ce que vous dites.
Ça va être génial.
Vous êtes un poète, dites-moi.
Nous sommes un poète, nous sommes en train de réciter une poésie en musique, en danse, en scénographie et en vidéo le long d'un spectacle.
C'est extraordinaire. Donc c'est le 14 juin, à quelle heure au Zénith alors ?
Ce sera à 18h au Zénith, donc venez un peu avant pour être tranquille. Heureusement, on n'aura pas trop chaud ce jour-là.
Oui, c'est bien, c'est vrai. Ouais.
Donc on est soulagés, donc on espère qu'on pourra être très nombreux et profiter un maximum de ce spectacle.
Vous étiez, l'année dernière, vous étiez nombreux et nombreuses au Zénith ?
Alors l'année dernière, on ne l'a pas fait au Zénith, on l'avait fait au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg.
Ouais.
Et comme on ne rentrait pas, puisqu'on était nombreux, on a dû faire plusieurs concerts pour accueillir tout ce public.
Ah oui.
C'était génial. Là, on va essayer de faire un concert et rassembler tout le monde.
Et alors, vous avez déjà des idées pour l'année prochaine ? Vous allez parler de l'espace ? Vous allez parler de quoi ? Des galaxies ? Des étoiles ? C'est ça le thème de l'année prochaine ?
En effet, l'idée, c'est de nous faire réfléchir par la beauté des disciplines qui interviennent autour du chant. Et donc, effectivement, c'est le temps et l'espace. Mais on vous en dira plus le 14 juin même pour qu'il y ait un grand enthousiasme de tout le monde présent.
Je serai présent, en tout cas. Beaucoup plaisir à vous accueillir à Radio Judaïka. Et bien sûr, vous êtes chez vous ici. Vous pouvez venir quand vous voulez. Merci beaucoup, Luciano.
Merci, André.
Biblioni. À très vite. Au revoir.
À très vite.
Voilà. On attend ressasser les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté.